Lorsque Jésus s'est assis sur cette montagne de Galilée, il avait devant lui, dans cette sorte d'amphithéâtre naturel, des milliers de personnes qui étaient prêtes à l'écouter. Ils étaient venus de partout pour entendre ce jeune rabbin, et on voulait savoir ce qu'il avait à dire. Mais Jésus savait bien, avant même d'ouvrir la bouche, qu'il lui restait très peu de place pour pouvoir parler au cœur de ces gens et retenir leur attention. Il savait très bien que dans l'esprit de tous ceux qui étaient prêts à l'entendre, il y avait cette idée, il va sûrement essayer de nous rallier à un des grands mouvements de pensée du temps. Ils étaient sûrs qu'il allait prêcher pour l'un ou l'autre de ces mouvements qui influençaient le peuple à ce moment-là et qui essayaient de dominer dans leur esprit. Il y avait très peu de place pour quelque chose de nouveau. Cependant, Jésus avait quelque chose de révolutionnaire à leur dire. Et lorsque Jésus a prononcé sa première parole, tout le monde a su qu'il n'allait pas avoir un discours comme les autres, mais qu'ils allaient avoir quelque chose de nouveau, d'inattendu. Et ils n'étaient pas tout à fait prêts à l'entendre. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'était déjà le début de la révolution. Rien que cette parole prenait à rebrousse-poil complètement les idées de ce temps et surtout les pratiques de ce temps. Mais lorsque Jésus s'assied sur la montagne et prêche, sa prédication transmet un message non seulement par les mots qu'il prononce, mais aussi par le contexte dans lequel il se vit. Et j'aimerais ce matin avec vous regarder ce contexte, c'est-à-dire ce message qui passe au travers du discours de Jésus sans parole. Ce message, Matthieu l'évangéliste essaye de le traduire au travers des premiers chapitres de son évangile. Pour faire comprendre à quel point, lorsque Jésus s'assied et qu'il présente ce sermon sur la montagne, il y a là un message encore plus puissant transpire au travers de son discours et qui touche le cœur des gens qui sont là. Alors j'aimerais vous inviter avec moi à revenir en arrière dans l'histoire de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez que Joseph, le fils de Jacob, avait eu des rêves. Il avait eu plusieurs rêves qui avaient d'ailleurs troublé ses frères et les avaient énervés, parce que ses rêves avaient l'air de dire qu'un jour, ils seraient tous à s'incliner devant Joseph et que Joseph allait dominer sur eux. Joseph, le préféré de son père, n'était pas le préféré de ses frères. Et vous savez que finalement, les rêves que Joseph a eus lui ont coûté cher, parce que ses frères l'ont vendu pour faire taire ce rêveur, et Joseph est parti en Égypte. Finalement, toute sa famille est venue en Égypte. Et vous vous souvenez comment, à cause de la famine, ils sont partis chercher de la nourriture, et finalement, après quelques années, le clan dans sa totalité, c'est-à-dire 70 personnes, nous dit le livre du Deutéronome, a fait le déménagement pour venir en Égypte. Jacob était là, 130 ans. Le peuple est donc venu en Égypte, et il est resté en Égypte. Il y est resté pendant un certain temps. Il y est resté environ 215 ans à ce moment-là. Et vous vous souvenez que le texte nous dit que il y a eu des pharaons qui ne connaissaient pas Joseph. Raison pour laquelle ils ont changé le statut de ce peuple en esclave. Une période difficile pour ce peuple, qui avait une certaine prospérité, mais qui maintenant avait perdu sa liberté. Ils étaient aux travaux forcés, finalement. Jusqu'au jour où Dieu envoie Moïse. Moïse le libérateur. Et Moïse va venir, vous savez, dans des circonstances tumultueuses, au travers des 10 plaies, par exemple, gagner la libération de ce peuple. Et finalement, le peuple va sortir d'Égypte. Et la première chose que le peuple va rencontrer sur son chemin, c'est la mer Rouge. Et là, il pense que c'est fini. Et vous vous souvenez comment Dieu, d'une façon extraordinaire, va être leur avant-garde et leur arrière-garde, les protéger de l'armée des Égyptiens qui vient par l'arrière, et ouvrir devant eux la mer Rouge pour qu'ils puissent y passer à pied sec. Incroyable, jamais vu. Vous vous souvenez comment, de l'autre côté, Moïse va prononcer, va chanter ce chant de délivrance que nous avons dans notre Bible, dans Exode chapitre 15, un chant de délivrance, le chant de Moïse. Et puis, ils vont continuer leur marche dans le désert. Une marche qui va durer 40 ans. Dieu n'avait pas l'intention qu'ils marchent pendant 40 ans dans le désert. Dieu avait un autre plan. Dieu aurait voulu les rencontrer comme il les a rencontrés au Sinaï et puis les amener dans la terre promise. Et ils ont commencé leur marche dans le désert, une marche d'épreuve d'ailleurs, une marche difficile, une marche éprouvante, durant laquelle ils ont été testés, ils ont eu leur foi mise à l'épreuve. Et puis ils sont arrivés finalement, 50 jours après être sortis d'Égypte, au pied du mont Sinaï. Et au pied du mont Sinaï, ils ont rencontré Dieu, qui leur a donné sa loi. Ils ont rencontré celui qui plus tard s'appellera Jésus et qui lui-même a écrit de son doigt sur les tables de pierre le texte de l'Alliance. Celui qui leur a donné ce mode d'emploi du croyant, l'Alliance pour ce peuple. Vous avez remarqué ce voyage du peuple hébreu est un voyage en 7 étapes. Joseph a des rêves, le peuple va en Égypte, le peuple reste en Égypte pendant un certain temps, le peuple sort de l'Égypte, le peuple traverse la mer Rouge, il voyage au désert, il arrive au Sinaï, il reçoit la loi. Un voyage en 7 étapes. Maintenant, lorsque Matthieu entreprend d'écrire son évangile, il a une préoccupation. C'est montrer à son peuple que Jésus est l'accomplissement des prophéties des Écritures. D'ailleurs, cette expression, nous la retrouvons souvent chez Matthieu, afin que s'accomplissent les Écritures. Matthieu va chercher dans l'Ancien Testament ces prophéties qui le concernent, qui concernent Jésus, pour montrer à quel point Jésus est véritablement le Messie attendu. Ainsi, Matthieu va rechercher dans l'Ancien Testament cette même séquence du peuple, parce que Jésus, dans son ministère, va vivre les mêmes 7 étapes. Et je vous propose de les regarder avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2. Évangile selon Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 13, il nous est expliqué que Jésus étant né, un danger maintenant se présente. Hérode veut le faire périr. C'est la raison pour laquelle Dieu va donner un rêve à Joseph. Mais cette fois-ci, Joseph, le mari de Marie, en lui disant de partir de là avec le petit enfant. Et effectivement, Joseph a ce rêve, il comprend ce que Dieu lui dit et il part. Au verset 14, il nous est dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Joseph a des rêves, Jésus est emmené par ses parents en Égypte. Et il va y rester, le verset 15 nous dit, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Comme le peuple, il va rester un certain temps en Égypte. Et puis, quatrième étape, il va sortir d'Égypte. Verset 15, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Matthieu ici cite un texte du livre du prophète Osée au chapitre 11, où se trouve effectivement cette phrase « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte » et il parle là du peuple, curieusement associé à son fils. De la même manière, après un certain temps, Jésus, avec ses parents, va sortir d'Égypte et revenir. Le texte se prolonge à partir du verset 19 où il nous est raconté que Hérode étant disparu, Jésus et ses parents vont pouvoir revenir. La cinquième étape se trouve un petit peu plus loin, au chapitre 3, lorsque nous apprenons que Jean-Baptiste commence son ministère. Et immédiatement après, nous est fait le récit du baptême de Jésus. Ce baptême qui correspond à ce passage de la mer Rouge. Et vous vous souvenez comment l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, fait la comparaison entre ce passage de la mer Rouge et l'expérience du baptême. Et c'est ce que Jésus vit ici, l'expérience du baptême. La sixième étape vient immédiatement après. Au chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, il nous est rapporté que Jésus va au désert pendant 40 jours, non pas 40 ans, mais 40 jours. Et que ce désert va être un désert d'épreuves, un désert où la foi va être testée. Et qui correspond à cet épisode où le peuple, lui, aussi va au désert et sa foi est testée. Je suis particulièrement intéressé par l'étape suivante. Parce que juste après, en sortant du désert, Jésus, au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, va prononcer le sermon sur la montagne. C'est-à-dire que Matthieu fait correspondre le sermon sur la montagne avec la rencontre du peuple au mont Sinaï. Le sermon sur la montagne, c'est le nouveau Sinaï. En fait, c'est ce moment où celui-là même qui a écrit de son doigt les 10 commandements sur les tables de pierre vient dans son peuple pour donner de sa loi une véritable image, pour faire comprendre quel est le véritable caractère de Dieu. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 280-299 en anglais, Ellen White écrit ceci. Dans le sermon sur la montagne, Jésus s'est efforcé de renverser le résultat d'une fausse éducation et de donner à ses auditeurs une conception juste de son royaume et de son propre caractère. Jésus qui est ici parle finalement du haut du mont Sinaï. C'est ce que Matthieu essaie de faire comprendre à ceux qui lisent son évangile. Ce sermon sur la montagne, c'est le nouveau Sinaï. C'est le même qui parle, mais il vient maintenant pour enlever toutes ces fausses conceptions qui se sont accumulées à cause de siècles et de siècles d'apostasie du peuple. Il est venu en personne montrer le vrai caractère de Dieu et le vrai sens de sa loi. Autrement dit, le discours de Jésus n'est pas le seul argument pour faire comprendre ce caractère de Dieu. Jésus a un discours de parole, mais le discours de sa vie est aussi le message qu'il veut transmettre. Il prêche par son discours, il prêche par sa personne pour faire comprendre quel est le vrai sens de la loi de Dieu. D'ailleurs, il va prononcer plusieurs paroles étranges aux oreilles de ses auditeurs. À plusieurs reprises, Jésus va dire « Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. » 6 fois Jésus va répéter cette parole. Et vous pouvez facilement imaginer que les gens dans l'auditoire se posent la question « Mais pour qui se prend-il celui-ci ? Qui est-il pour bouleverser la loi et changer la loi ? Qui est-il ? Qui croit-il qu'il est ?» D'ailleurs, il n'est personne pour eux. Il ne sort pas d'une école rabbinique prestigieuse. Il n'a d'ailleurs que 30 ans, c'est dire qu'il sort tout juste des jupons de sa mère. En plus, il n'est même pas marié. Et il vient de Nazareth. Que peut-il venir de bon de Nazareth ? Et pour couronner le tout, non seulement il ne vient pas d'une famille renommée, mais il est charpentier. Comment peut-il dire « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. » Qui est-il pour dire ça ? C'est qu'en réalité, celui qui est assis sur cette montagne de Galilée qui parle, il est la parole de Dieu. Et il parle là comme il a parlé du haut du mont Sinaï pour donner sa loi à ses enfants. Il est la parole de Dieu. Lorsque Jésus était assis sur les genoux de Marie, ce n'est pas lui qui a dit à Marie comment c'était dans le ciel lorsqu'il y était. Ce n'est pas lui qui a raconté à Marie comment le ciel était beau avant qu'il vienne naître d'elle. Non, c'est elle, Marie, qui a enseigné à Jésus tout ce qui le concernait. C'est Marie qui, ayant Jésus sur ses genoux, a ouvert les Écritures. C'est elle qui lui a raconté l'histoire extraordinaire et miraculeuse de sa naissance. C'est elle qui a ouvert les prophètes et qui a montré les textes dans Deutéronome, dans Ésaïe, dans Michée, dans Daniel, tous ces textes qui concernent Jésus lui-même. C'est sur ses genoux qu'il a appris qui il était et quelle mission lui était réservée. jusqu'au jour où, ayant 12 ans, Jésus est allé au temple pour la première fois. Vous vous souvenez comment l'évangéliste Luc raconte cela en détail. Mais là, à 12 ans, il a vu dans le temple les sacrifices. Et là, il a découvert que lui, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cela, sa mère ne lui avait pas enseigné parce qu'elle-même ne l'avait pas conçu de cette façon-là. Elle-même ne l'avait pas vraiment compris. Ce n'est pas sur ses genoux qu'il a appris cela, c'est au temple, en voyant les sacrifices. Et là, Jésus découvre la nouvelle dimension de sa mission. Il sait qu'un jour, il faudra qu'il pose le marteau et la scie. Il sait qu'il devra enlever son tablier de charpentier et prendre cette tunique de l'enseignant. Il sait qu'un jour, il devra donner sa vie pour l'humanité. Et pendant les 18 années qui suivent, Jésus va penser à son ministère et à ce qu'il va dire. Pendant les 18 années qui se déroulent dans cet atelier de Nazareth, Jésus va préparer son sermon inaugural. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus parle maintenant comme il a parlé du haut du mont Sinaï. C'est lui, l'Éternel, qui était là pour donner à son peuple sa loi. Et c'est lui qui est là maintenant pour donner à cette loi le sens que ces gens ont besoin de comprendre pour le recevoir, lui. Dans le premier verset de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, Matthieu va mettre quelques mots qui sont significatifs avant d'introduire la première phrase de Jésus. Il dit que Jésus s'assit. C'est la position de celui qui enseigne. C'est la position d'autorité de celui qui va enseigner ses disciples. Et puis il nous est dit, puis ayant ouvert la bouche. C'est une expression qui est employée dans le Nouveau Testament pour marquer la solennité de ce qui va suivre. D'ailleurs, quand on y pense dans l'Apocalypse, on retrouve cette idée-là. Lorsque Jean voit en vision Jésus, il dit « De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. » C'est que quand Jésus parle là, c'est la parole de Dieu, la fameuse épée dont il est question. Et puis, Matthieu dit « Il les enseigna. » Et la forme qu'il va donner à ce verbe dans le texte sous-entend que ce que Jésus enseigne là, c'est ce qu'il a toujours enseigné. Ce n'est pas du nouveau, il continue à les enseigner de la même manière. Le message n'est pas nouveau, il est ancien, mais il résonne à leurs oreilles comme une révélation, comme une révolution. Si Jésus avait parlé dans le langage de son temps, il aurait dit « Heureux les descendants d'Abraham ». Si Jésus avait parlé dans le langage de son temps, il aurait dit « Heureux les riches, heureux les hauts placés, heureux les éduqués, heureux les influents, heureux ceux qui observent toute la loi. » Mais Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit. » Et il continue « Car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire heureux ceux qui reconnaissent leur nullité, leur pauvreté, leur misère, leur besoin de l'Esprit de Dieu en eux. Car le royaume des cieux est à eux. Et Jésus dit ça à un auditoire qui est préoccupé de réinstaurer son royaume sur la terre, de mettre les Romains dehors par un moyen ou par un autre, et de réinstaller son royaume. Et Jésus dit non. C'est le royaume des cieux qui importe à cet instant. Heureux les pauvres en esprit, résonnent à leurs oreilles comme heureux ceux qui ne comptent pour rien. Heureux ceux qui n'ont aucune place, nulle part. Bénis sont les pauvres en esprit, les nuls qui ont conscience de leurs besoins. Et quand Jésus parle, du royaume des cieux, c'est de la vie éternelle qu'il parle, non pas d'un rôle influent dans le royaume d'Israël maintenant qui est dominé par l'occupant. Dans le livre Amazing Grace, à la page 9, Ellen White dit ceci. Quand Jésus ouvre la bouche, les premières paroles qu'il prononça tombèrent dans les oreilles de son auditoire comme des mots étranges et nouveaux. En réalité, il n'y avait rien de nouveau. Mais leur cœur avait été tellement endurci par des siècles où la tradition avait changé le caractère de Dieu à leurs yeux que ce que Jésus leur apporte leur apparaît comme étrange et nouveau. C'est une véritable révolution que Jésus apporte. Dans le livre « Thoughts from the Mount of Blessings » à la page 147, Ellen White dit ceci. Ces paroles ont frappé à la base de leurs anciennes idées et opinions. Obéir à son enseignement requiert un changement dans toutes leurs habitudes de pensée et d'action. Cela les mettait en opposition ouverte avec leurs chefs religieux car son enseignement implique un renversement de toute la structure que plusieurs générations de rabbins avaient établie. Ça, c'est une révolution. Et maintenant, à cette révolution, Jésus ajoute une révélation. Il est la parole de Dieu en personne. Des choses étranges, des choses nouvelles, mais en fait, ce sont des choses anciennes. Quand Jésus parle, il est la parole de Dieu. C'est une révélation de Dieu qu'il présente ici. Et quand vous y pensez, ce sont là les premiers mots du dernier livre de votre Bible. Le livre de l'Apocalypse commence par ces mots. Révélation de Jésus-Christ. C'est un véritable dévoilement. Le dévoilement de qui est Dieu, de quel est son caractère. Et Jésus en est l'incarnation même. Jésus parle de nouveau du haut du mont Sinaï. C'est le sermon sur la montagne. Et dans ce sermon, il va dire des choses étranges à leurs oreilles. Comme par exemple le verset 17 dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, il est dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Du haut du Sinaï, Jésus est en train de dire « La loi est intouchable, la loi est inaltérable, comme l'est d'ailleurs le caractère de Dieu. N'essayez donc pas, par vos traditions, par vos commandements, de rendre cette loi praticable à vos yeux. N'essayez pas de la transformer pour vous donner vous-même l'impression que vous êtes capable de l'accomplir. Souvenez-vous, lorsqu'il l'a présentée à son peuple, 1500 ans avant, le peuple a répondu « Oui, nous allons faire tout ce que Dieu nous dira. » Et ils n'avaient rien compris. Parce que ce texte même-là des 10 commandements que Dieu leur donne commence par ces mots. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » C'est par là que tout commence. Et c'est en recevant ce Sauveur qu'ils ont d'ailleurs symbolisé dans la Pâque avant de sortir. C'est en recevant ce Sauveur qu'ils ont la force, la capacité de vivre la loi qui vient ensuite. C'est la raison pour laquelle, du haut de ce nouveau Sinaï, Jésus essaye de le leur faire comprendre. Je viens pour vous donner la force d'accomplir cette loi avec le cœur. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas l'accomplir. Heureux ceux qui ont réalisé leur nullité et qui viennent à Dieu en disant « Donne-moi ton esprit. » Ce n'est pas un nouveau message, c'est le message de l'Ancien Testament. Regardez par exemple dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, nous sommes là bel et bien dans l'Ancien Testament. Et il est dit au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le seul moyen par lequel nous pouvons observer la loi de Dieu et la vivre comme Jésus la vivait, c'est lorsque Dieu met son esprit en nous. Et c'est ce que Jésus leur propose. Dans le livre du prophète Jérémie, le même programme est proposé. Regardez au chapitre 31 du livre du prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 31, au verset 33, il est écrit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et dans les versets qui précèdent, le prophète annonce de la part de Dieu une nouvelle alliance. Elle est en réalité la même, sauf que cette fois-ci, cette alliance, elle est visible en chair et en os. Elle est incarnée dans la personne de celui qui est la parole de Dieu et qui maintenant, du haut du nouveau Sinaï, leur dit « Heureux les pauvres en esprit ». Jésus propose cette fois-ci un cœur nouveau. Pas une loi nouvelle, pas une tradition nouvelle, pas une nouvelle méthode ou un nouveau truc pour s'en sortir des Romains. Il leur propose un cœur nouveau. Un cœur comme le sien. Il leur propose de demander à Dieu son esprit et de suivre l'exemple de Jésus et de se mettre au bénéfice de ce que Jésus veut leur offrir. C'est en fait le seul moyen d'accomplir cette loi de Dieu et d'être comme Jésus, l'incarnation même de son caractère. Nous avons fait des béatitudes quelque chose de très sentimental. On les a peintes, on a fait des jolis tableaux, on les a brodées, on les a mis dans notre salle de bain parce que ce sont des belles paroles de Jésus, ce sont des belles pensées. Et on a oublié que c'est une révolution, on a oublié que c'est une révélation, la révélation de celui qui est la parole de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Si nous nous sentons aussi des pauvres en esprit. Alors, le sermon sur la montagne, prêché par Jésus depuis le nouveau Sinaï, est aussi pour nous. Parce que ce cœur nouveau, c'est justement ce qu'il veut nous donner. C'est justement pour pouvoir nous le donner qu'il est venu et qu'il a acquis ce salut gratuit qu'il veut nous offrir. Nous invitant de devenir l'incarnation de sa loi. Non pas d'y obéir parce que c'est nécessaire, mais d'être revêtu de ce caractère qu'il est lui-même. Est-ce que ce Jésus des Béatitudes, c'est celui que nous avons accepté? Il vient et nous dit « Heureux les pauvres en esprit ». Et il est parti préparer le royaume des cieux, de sorte que tous ceux qui l'acceptent aujourd'hui peuvent aller avec lui à la maison.